Je suis Marie-Pierre Galisson, donc je suis didacticienne au sein donc, du laboratoire de didactique André Rovuse. Et mon exposé porte sur les rapports entre analogie et ethnomathématique. Je présente quelques éléments qui sont issus de lectures un peu exploratoires hein, et donc qui sont tout à fait susceptibles d'être remises en question. Alors je voudrais aussi quand même signaler que cet exposé peut éventuellement évoquer quelques rapports avec le séminaire « Penser l'école depuis l'Afrique » qui s'est déroulé en novembre dernier. Certains points de vue que j'évoquerai mettent en évidence les potentialités d'une éducation mathématique endogène dans certains pays du Sud, éducation qui s'inscrit difficilement dans le cadre de l'internationalisation des politiques éducatives. Et il renvoie aussi, cet exposé, à la réflexion que nous avons menée au sein d'un groupe IREM, le groupe GREMA, avec la collaboration de collègues maliens sur la mise en place de nouveaux programmes de mathématiques à partir des années 2000, programmes qui s'inscrivaient dans un champ pédagogique qui prenait en compte vraiment le contexte socioculturel. Voilà, donc je vais passer au diaporama à proprement parler. Hop, donc... Hop, ouais. Bien. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que l'ethnomathématique. Eh bien, l'ethnomathématique, finalement, elle se définit pratiquement, enfin, en ce que je conçois, comme justement une fonction, un métier qui recourt de façon tout à fait spécifique à l'analogie. Hein. Puisqu'en fait, pour les ethnomathématiciens, le recours à l'analogie permet en fait de comprendre dans la lecture de connaissances mathématiques, d'être un outil d'intelligibilité dans la lecture des connaissances mathématiques à l'œuvre dans des pratiques socioculturelles, non écrites, je préciserai. Et l'analogie, c'est aussi un vecteur d'apprentissage dans des contextes culturels qui ne sont pas occidentaux, où le potentiel mathématique des ressources culturelles est souvent ignoré. Donc, les ethnomathématiciens se caractérisent par ce recours pratiquement systématique à l'analogie. Alors, je nuancerai un tout petit peu le deuxième axe, c'est-à-dire le recours à l'analogie comme vecteur d'apprentissage, est caractéristique d'un mouvement qui n'est pas forcément le mouvement qu'on trouve chez les chercheurs de laboratoire. Voilà. Alors, c'est un domaine qui prend en compte, en fait, qui s'appuie sur deux lignes de force qui sont, à mon avis, tout à fait fondamentales. Ces deux lignes de force, c'est que pour les ethnomathématiciens, les mathématiques formelles ou académiques véhiculent un système de valeurs, rationalité, progrès, objectivité, inhérent à la civilisation occidentale. Et que ces mathématiques ne sont pas forcément compatibles avec le système de valeurs des populations dans lesquelles ces mathématiques ont été transposées. En fait, il existe dans ces sociétés des savoirs traditionnels, des pratiques culturelles qui sont pas reconnues, qui demeurent dévalorisées, alors qu'en fait, ces savoirs et ces pratiques témoignent d'une forme de rationalité mathématique et d'un certain type de pratique mathématique. Donc, après ces deux lignes de force, il y a aussi deux enjeux éducatifs qui peuvent caractériser un peu ce corps des ethnomathématiciens, historique, du moins le courant historique. C'est que... il s'agit de lutter contre l'échec scolaire dans le domaine de l'enseignement des mathématiques et que pour ce faire, il est nécessaire de prendre en compte le contexte socio-culturel des élèves. Un deuxième enjeu encore, c'est que favoriser l'apprentissage des élèves dans leur milieu, ça implique d'adapter les contenus des programmes en octroyant une place non négligeable aux mathématiques donc locales, non formelles. Voilà. Tout ça parce que dans ce contexte, il y a des pratiques, des modes de raisonnement qui se constituent en fait comme des ressources structurantes et qui nécessitent donc une adaptation des curricula. Alors, après tout ce petit discours, j'ai quand même présenté un plan de mon exposé. Donc notre exposé sera structuré en 4 parties où nous aborderons successivement des liens entre diverses définitions. Dans cette première partie, on distinguera 2 courants, un courant historique qui prend naissance dans les pays du Sud et un courant plus récent dont rendent compte des travaux français. Donc, c'est la première partie. Je présenterai quelques éléments aussi sur les liens entre analogie et processus de redécouverte des mathématiques cachées. Dans une troisième partie, j'aborderai la manière dont certains ethnomathématiciens préconisent en fait un usage de l'analogie dans le contexte de l'apprentissage et de l'enseignement. Et enfin, je produirai quelques réflexions personnelles et qui peuvent être vraiment remises en question sur les liens entre l'ethnomathématique telle qu'elle se décline à travers mes lectures, l'analogie et la didactique en France, les liens et les tensions et les questions que cela peut poser. Donc cette dernière partie n'est pas une conclusion, hein, c'est plutôt un champ de questions qui se pose pour moi. Donc, je commencerai par le contexte d'émergence, c'est-à-dire le courant ethnomathique qui s'inscrit historiquement en Afrique, au Brésil. Alors, l'ethnomathématique est un domaine d'étude qui interroge la croyance en l'universalité des mathématiques dites formelles ou académiques, telles que les caractérisent les curricula scolaires occidentaux. Ce domaine, il faut le resituer dans son contexte politique. Il est né dans un contexte d'émancipation culturelle et économique des anciennes colonies européennes à partir des années 1960. Donc, pour les tenants de ces mouvements, il existe une rationalité mathématique universelle, mais dont ne rendent pas compte les mathématiques enseignées dans les systèmes éducatifs occidentaux. Alors pour cela, en fait, pour faire un retour avec l'analogie, on va s'appuyer sur une première définition, qui est la suivante, qui est ancienne, qui date de 86. Donc l'ethnomathématique, c'est l'étude des idées mathématiques des peuples sans écriture. J'insiste bien sur cet aspect. Nous reconnaissons comme pensée mathématique des notions qui correspondent en quelque sorte à ce label dans notre culture. Donc, on peut bien voir là une définition colonialiste comme l'a définie en fait Gerdes, parce qu'elle semble effectivement opposer pensée dite primitive et pensée occidentale, mais du moins elle a le mérite, cette définition, d'expliciter le processus de pensée des chercheurs, c'est-à-dire la recherche d'une ressemblance entre des notions qui relèvent de 2 types de cultures différentes. Alors, cette définition, elle se module de diverses façons. J'en donnerai quelques exemples. Pour Gerdes, dont les travaux m'ont particulièrement intéressé, donc il s'agit évidemment de mettre en avant la primauté du contexte social et culturel. Donc, pour Gerdes, l'ethnomathématique, c'est l'étude des pratiques et des idées mathématiques dans ses rapports avec l'ensemble de la vie culturelle et sociale. C'est aussi une recherche citoyenne pour reconstituer une mémoire effacée ou mutilée par la colonisation. Et ça consiste aussi à rechercher des éléments culturels qui vont pouvoir servir comme point de départ d'activités de mathématiques dans l'enseignement. Donc on retrouve bien les 3 axes, hein. Établir l'universalité de la rationalité mathématique, tout comme Lévi-Strauss pour l'universalité de la pensée rationnelle, la fausse antinomie entre pensée prélogique et pensée logique, réhabiliter une culture opprimée et rénover évidemment une éducation mathématique qu'il est nécessaire d'adapter et de rénover. Alors ces diverses définitions en fait vont prendre corps à partir du moment où va se créer finalement un mouvement qui va réunir cet ensemble de mouvances ethnomathématiques. La création en 1985 du groupe IHGEM, donc Groupe international d'études d'ethnomathématiques, permet de rassembler sous une même dénomination l'ethnomathématique, donc des secteurs de recherche dont on voit très bien qu'ils se situent en fait au confluent de plusieurs sciences, à savoir l'ethnologie, la sociologie et les mathématiques. Donc on adopte deux définitions qui sont assez larges. L'ethnomathématique, ce sont les mathématiques dans le contexte culturel, mathématiques dans la société. La voie particulière et peut-être spécifique par laquelle des groupes culturels réalisent des tâches de classement, de mise en ordre et de mesure. Alors ce sont des définitions assez générales. Je donnerai aussi en fait la définition qui correspond au modèle proposé par D'Ambrosio, parce que ce modèle en fait est la référence de beaucoup de travaux de chercheurs qui investiguent donc le champ de l'ethnomathématique. Donc le modèle proposé par D'Ambrosio, il peut se modéliser sous cette forme. Donc on peut dire que les mathématiques se définissent en termes de style d'explication, de compréhension et technique. Ces diverses façons de faire, classifier, ordonner, expliquer, se retrouvent dans une culture donnée, à travers des productions, les pratiques qu'elles engendrent. Excusez-moi, il n'y a pas un petit pointeur? Enfin, un pointeur pour... Bon, c'est pas grave, je parlerai, mais c'est parce que bon... Voilà. Donc, je voulais simplement indiquer que ce que je caractérisais correspondait au cadre. Alors, une dernière caractéristique qui est retenue par Gerdes comme par l'IHGEM, c'est une ethnomathématique qui est aussi teintée d'une forte composante didactique. Alors, je ne traduirai pas le texte, je vous exprime un peu l'idée que j'en ai dégagée. Donc, pour l'IHGEM, la dimension didactique repose sur l'hypothèse de connaissances, de raisonnements mathématiques qui sont des construits culturels et qui ne sont pas pris en compte dans les curricula. En fait, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'appui sur ce que Vergniaud peut désigner comme concept théorème en acte, ces connaissances construites dans l'expérience par analogie dont on a eu quelques idées ce matin, hein, même si les lexiques ne sont pas les lexiques seraient peut-être articulés. On peut aussi faire référence au concept quotidien donc de Vygotsky. Alors, on aborde maintenant en fait ce deuxième courant, qui est un courant donc français, dans lequel on va trouver quelques distinctions par rapport à ce courant donc historiquement situé, qui est beaucoup plus engagé d'ailleurs d'un point de vue politique. Alors, les mathématiques formelles et les mathématiques naturelles sont les mathématiques telles que les envisage un peu Chemillier et d'autres. Donc pour Chemillier et les gens qui sont un petit peu dans sa mouvance, il existe des mathématiques analytiques occidentales qui vont nécessiter le recours au symbole et à l'écrit. Mais il existe aussi des mathématiques analogico-expérimentales telles que les définissent Davis et Hirsch. Donc, les mathématiques analogiques peuvent être pratiquées par n'importe quel individu dans un monde de relations spatiales et de technologies quotidiennes. Donc, l'activité mathématique, elle existe sous deux formes. Une forme analytique, où on manipule des symboles dans un discours formalisé, dont les critères sont d'ailleurs fluctuants suivant l'histoire, et une forme analogico-expérimentale qui, elle, serait un peu indépendante de l'histoire, qui est proche de l'intuition, qui s'enracine en fait dans l'intuition et les sens. Les résultats ne s'imprimeraient pas donc en mots, hein, mais ils s'expriment en compréhension ou en intuition. Alors, je vais vous donner un exemple qui était proposé par les auteurs. Cet exemple, c'est la démonstration du théorème de Pythagore. Alors, je suppose que tout le monde garde peut-être culturellement le principe. Je ne sais pas comment ça se trouve. Au milieu, oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, en fait, l'idée du théorème de Pythagore, c'est que le carré, donc, dans un triangle rectangle, on peut distinguer, en fait, une sorte de deux côtés perpendiculaires. Ici, un grand et un petit, et un troisième côté, le grand côté, qu'on appelle l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore, il dit tout simplement que le carré de l'hypoténuse, alors le carré de l'hypoténuse, c'est ça, est égal à la somme des carrés des deux côtés perpendiculaires. Alors ici, vous avez le carré qui donc est accolé à l'un des côtés perpendiculaires, le deuxième carré accolé aussi, finalement, enfin de même longueur que ce côté du triangle rectangle, est ici. Donc la démonstration ici qui est proposée est une démonstration visuelle qui s'appuie sur le fait, je ne sais pas si, oui, qui s'appuie sur le fait que, donc, on va percevoir, on va avoir la conviction qu'effectivement, l'aire du carré de l'hypoténuse est bien égale à la somme des aires des carrés des deux côtés perpendiculaires, tout simplement par, alors visuellement, parce qu'en fait, bon, on va pouvoir user aussi de transformation spatiale, c'est-à-dire implicitement utiliser par exemple ici une translation, on va déplacer cette pièce-là de façon à la faire coulisser ici, hein. Celle-ci n'a pas à bouger, et puis celle-ci on va la faire tomber ici, voilà. Donc en faisant tomber cet objet-là sur ce côté-là, en déplaçant celui-ci jusqu'au bord et puis en faisant en sorte de placer celui-ci avec son petit côté ici, on a bien une surface remplie par les deux petits carrés de la première figure. Donc là, en fait, les auteurs, hein, je relève simplement leur position, donc... prétendent que c'est une forme donc de mathématique analogico-expérimentale puisqu'elle s'appuie sur les sens, qu'elle entraîne la conviction et qu'effectivement si nous matheux ou si nous on a envie d'expliquer pourquoi ça marche, le perçu suffit simplement à ancrer la conviction. C'est Chemillier, c'est le bouquin de Chemillier, donc je parle des mathématiques naturelles et l'exemple qui est proposé ici est un exemple qu'il emprunte à Godefroy. Voilà. Donc, on peut faire quelques hypothèses à partir de ces travaux, enfin, à partir de ce que suggèrent ces travaux. Hein. Donc, une forme d'activité mathématique, la forme analogique est présente dans l'activité de tout individu, y compris du mathématicien spécialisé, et qu'évidemment, quand on est ethnomathématicien, traqué dans une multiplicité de pratiques de production des idées mathématiques, eh bien, c'est procéder par une mathématisation analogique, qui est plus ou moins complexe, hein, puisqu'en fait, l'inférence intuitive que l'ethnomathématicien, qui est mathématicien en général, va faire pour identifier l'idée mathématique, réfère à une culture mathématique formelle occidentale. C'est un des points importants. Donc c'est une notion qui est à creuser, me semble-t-il. On découvre sa dimension heuristique, ce qu'on va voir dans le prochain paragraphe, dans la prochaine partie. Mais ça pose quand même des questions, parce que si on s'appuie sur cette notion de perception visuelle, peut-on parler de mathématisation analogique quand le mathématicien, par exemple, travaille sur des structures qui sont déjà formalisées? Ou même quand l'élève travaille, par exemple, sur des expressions algébriques pour pouvoir identifier leurs ressemblances et leurs dissemblances. Quand ils opèrent, le mathématicien ou l'élève, des changements de cadre, c'est-à-dire qu'ils passent par exemple ce qu'on peut faire en fait avec le théorème de Pythagore, c'est passer du cadre numérique où en fait les mesures des côtés vont nous permettre d'obtenir des égalités numériques à un cadre géométrique où en fait on travaille sur des grandeurs. Voilà. Alors, Alors, on va aborder dans cette deuxième partie, en fait, la manière dont les ethnomathématiciens, effectivement, vont procéder pour faire émerger des idées mathématiques dans des productions ou des actions, des gestes quotidiens. Alors, il y a de nombreux exemples qui illustrent l'existence d'idées mathématiques. Je prendrai surtout exemple sur ce que propose Gerdès et puis ensuite Chemillier. Alors, Gerdès, il décrit ainsi des pratiques qui sont utilisées par les paysans au Mozambique pour tracer la base rectangulaire de leur maison. Ils prennent deux paires de bambous de même longueur. Les bambous les plus courts vont permettre de construire la largeur de la case. Les plus longs vont permettre de construire donc les longueurs. Alors, ils assemblent ces bambous de façon à former un parallélogramme, c'est-à-dire un quadrilatère dont les côtés vont être parallèles. Et pour s'assurer la base sera bien rectangulaire, eh bien, ils vont tout simplement utiliser une corde et faire en sorte que la corde qui permet de mesurer la diagonale soit la même. Ils vont donc utiliser une corde pour vérifier que les diagonales donc, de la maison vont bien être égales. C'est une première méthode. Donc, évidemment, Gerdès y voit là l'expression dans l'action d'un axiome qu'il écrit sous la forme suivante. Un parallélogramme dont les diagonales sont égales est un rectangle. Alors, il y a un deuxième axiome qui est utilisé en fait en acte par les paysans aussi et qui consiste à prendre cette fois donc deux cordes, à les nouer par leur milieu, de prendre un bambou qui permet d'obtenir une largeur, on tend les deux cordes, on fixe ensuite les deux extrémités, et de la même façon, on obtient en fait les quatre sommets d'une base rectangulaire. Gerdès peut affirmer effectivement que c'est l'expression en acte d'un axiome qu'il indique ici. Hein. Donc un quadrilatère dont les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu est un rectangle. Donc on peut aller plus loin, puisque Gerdès inscrit ces deux axiomes dans une théorie donc alternative à celle d'Euclide, qui est celle d'Alexandrov, hein, donc qui montre bien qu'effectivement on peut, à partir de ce type de processus, lire des idées mathématiques. Alors, un deuxième exemple pour illustrer, c'est en fait les dessins sur le sable qu'on appelle les saunas en fait en Angola, sur lesquels ont travaillé Gerdès et Chemillier, et qui sont des tracés en fait qui reposent sur la règle de la ligne continue, c'est-à-dire dans le sable, si on trace ce sauna, le doigt ne doit pas se lever, le tracé doit être complètement achevé sans que le doigt n'ait eu à se lever. Donc le motif va dépendre évidemment du réseau de points équidistants, et il mobilise un algorithme géométrique. Son étude mathématique s'inscrit dans la théorie des graphes pour l'ethnomathématicien. D'ailleurs, Gerdès y trouve des développements. En fait, il a réussi à travailler d'un point de vue mathématique sur une situation de départ qu'il a donc modélisée en termes de théorie des graphes. On peut remarquer avec les auteurs qu'en fait, on peut en fait, dans l'acte, utiliser en fait le théorème de l'air. Hein. Un graphe connexe admet un cycle lérien passant une fois et une seule par chaque arête, si et seulement si tous ces sommets ont un nombre pair d'arêtes, ce qu'on admet ici.
À chaque sommet, on a bien un nombre pair d'arêtes.
Alors la condition nécessaire s'apparente à une analogie. La parité est expliquée simplement et aisément par le fait que si on arrive, il faut bien partir, donc il faut bien deux. Par contre, la réciproque, là, les auteurs le montrent, elle ne relève pas du tout d'un raisonnement par mathématisation analogique, puisqu'en fait, elle recourt à la récurrence. Hein, il faut partir de supposer que c'est valable pour n sommets et en déduire donc si c'est vrai pour 1, ce sera vrai pour n plus 1. Voilà. Donc, je me suis arrêtée là. Pour l'instant, on a juste abordé la question, finalement, de cette mathématisation analogique utilisée par les ethnomathématiciens. Mais le but du jeu, ce n'est pas de savoir ce que les mathématiciens peuvent faire pour décoder des mathématiques. C'est aussi rentrer, en fait, dans le mode de pensée donc des acteurs. Donc, c'est ce que propose donc Chemillier, c'est-à-dire de faire un travail qui va lui permettre non pas simplement d'identifier des idées mathématiques dans des choses extérieures, mais d'essayer de s'interroger sur le mode de pensée donc des gens qui font ça. Donc il va décider, enfin il distingue en fait deux types d'ethnomathématiques, ce qu'il va appeler une ethnomathématique de laboratoire, celle que fait Gerdès, celle qu'il a fait lui-même, hein, et une ethnomathématique de terrain. C'est-à-dire l'ethnomathématique de terrain va lui permettre d'essayer de rentrer dans le mode de pensée des gens qui font ces choses-là. Donc ça s'appuie sur une étude ethnographique. Et le choix qu'il a fait, c'est de... Enfin, il a fait plusieurs choix, mais il a notamment travaillé sur la divination Sikidi. Pour cela, donc, il a fait des recherches qui l'ont conduit d'ailleurs à prendre en compte le fait que cette divination, les procédures de cette divination existent dans divers continents, enfin, ont pour origine d'ailleurs, ont une origine arabe, et qu'en fait, elles sont stables depuis un grand nombre d'années. Alors voilà de quoi il s'agit. Je vais commencer par expliquer d'abord comment est construit l'une des parties de la configuration finale. Donc en fait, le devin va construire une configuration qui va lui permettre de prédire si celui qui vient le voir a une maladie qui ne sera pas trop grave, hein, ou si, bon, c'est donc un devin. Alors, il dispose au départ de deux tas de graines de tamarin. Sa technique va consister donc à construire un tableau de graines en éliminant deux par deux les graines des deux tas. Donc il enlève deux graines, il enlève deux graines, il enlève deux graines. À la fin, dans son premier tas, il reste une ou deux graines. Dans le deuxième tas, il reste une ou deux graines. Et ces deux graines, il va les disposer dans un tableau que j'ai redessiné ici. Donc on remarque que dans ce tableau, on obtient en fait ce qu'on va appeler la matrice mère, dont les éléments valent 1 ou 2. Alors, ensuite, on obtient ce qui va être la configuration elle-même et qui est beaucoup plus complexe. La configuration elle-même, elle est constituée donc par la matrice mère. La matrice mère est ici. Alors, évidemment, les noms sont des noms malgaches. Les écritures littérales avec des indices ne sont évidemment pas utilisées. Hein, c'est juste pour comprendre ensuite la manière dont le devin va construire sa configuration. Donc ici, la matrice mère. La matrice mère va permettre d'obtenir en fait 8 positions. Les positions, ce sont des quadruplets, c'est-à-dire des quadruplets qui vont être constitués facilement. Vous m'entendez si je me... Donc les quadruplets vont être obtenus. Pardon. Donc, alors, on a donc la matrice mère permet en fait de déterminer 8 positions. Les 4 colonnes, hein, où vous remarquez les 4 colonnes, est-ce que merci, où vous remarquez donc qu'on a soit 1, soit 2 jetons, les 4 lignes, donc ça en fait 8. Et ce n'est pas suffisant, on va ensuite, le devin va procéder, et c'est là que les choses sont intéressantes, de façon tout à fait stable. Il va utiliser des opérations pour construire ce qu'on appelle les colonnes filles. Alors, il y a des colonnes qui sont de première ou deuxième ou troisième génération. Les colonnes de première génération sont celles qui vont être constituées donc, dans un premier temps. Alors, on remarquera d'ailleurs qu'il n'y a pas d'algorithme régulier. Colonne fille va être construite est placée ici, elle se trouve là, et on remarque que le devin, que les devins en plus sont très experts, pour construire cette colonne fille, vont additionner donc ces deux colonnes-là. Alors 1 plus 1 fera 2, 1 plus 1 fera 2, 1 plus 2 fera 1, 1 plus 2 fera 1, c'est-à-dire on remarque que 2, en fait, les deux jetons correspondent à l'élément neutre. Et ces règles sont régulières, donc de la même façon, on va pouvoir construire donc les 4 premières colonnes filles. On fera de même avec les colonnes filles de la deuxième génération et de la troisième génération. Alors, ce qui est remarquable, ce qui est remarquable, c'est la capacité donc déjà à calculer de ces devins, c'est la capacité aussi à faire du calcul mental, et l'ethnomathématicien peut modéliser en fait ces différentes opérations comme des propriétés, enfin sous forme de propriétés algébriques excessivement élaborées. Voilà. Alors d'un point de vue divination, du point de vue de la divination, en fait, les positions vont définir en fait des caractères différents. Les princes et les esclaves, par exemple, on remarque aussi, bon, on peut faire une analogie avec les choses qu'on retrouve dans toute civilisation, les princes correspondent à des configurations qui correspondent à un nombre pair. Quand par appariement, on prend la colonne, par exemple, P1, et qu'on ajoute tous les jetons, on obtient 4, qui est un nombre pair, donc ça, c'est une position de prince. Par contre, P3, quand on ajoute tout, on obtient un nombre impair, c'est un esclave. En général, ça tombe mal. Enfin, quand on tombe sur les esclaves, c'est pas mauvais, c'est pas très bon signe, quoi. Donc, en fait, il y a toute une interprétation qui s'appuie, en fait, sur des propriétés un peu ésotériques des nombres, si vous voulez. Alors, en tout cas, les auteurs qui ont donc cherché à savoir ce qui se passait dans la tête donc, des devins ont réussi à mettre en évidence un nombre de choses. Ces méthodes peuvent être modélisées à l'aide de propriétés algébriques, ça je l'ai déjà dit, mais certaines sont obscures par manque de communication. Les devins sont conscients de ces propriétés. On remarque aussi que certaines configurations relèvent de leur seul exercice pour le plaisir. Et on peut, par exemple, ils font parfois des configurations juste pour simplement faire des choses, quoi, en fait. On peut faire un lien avec l'appétit de connaissance objective propre à l'esprit humain, dont parlait aussi Lévi-Strauss. Pour l'auteur, donc, la mise en évidence des liens entre constructions élaborées par les ethnomathématiciens et processus mentaux témoigne donc de l'existence de véritables mathématiques indigènes. Donc voilà, c'est un premier point. Alors pour passer à la troisième partie, on peut supposer que la pérennité, l'histoire et la pérennité donc, de ces pratiques témoignent aussi de l'existence de procédures de transmission. Les devins transmettent leurs pratiques. Donc on peut faire des hypothèses, qu'est-ce qu'on peut en inférer sur en fait les moyens d'utiliser ce type de connaissances pour les apprentissages. Donc on passe maintenant à cette troisième partie dans laquelle on va aborder quelques points mettant en évidence le travail des ethnomathématiciens pour utiliser certaines de ces ressources pour les penser comme des ressources pour l'enseignement. Alors, les premiers travaux auxquels je me suis un peu intéressée, c'est les travaux de Traoré et Betnars. Donc, évidemment, ils couvrent les objectifs précédents, établir l'universalité de la pensée mathématique, décoder des connaissances. Mais ils vont chercher aussi à légitimer l'intégration donc de ressources qui sont mobilisées dans des pratiques pour contribuer à l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage. Ils vont s'intéresser notamment aux pratiques de dénombrement et d'achat de mangue sur le marché chez les Siamou, donc au Burkina Faso. Donc leur idée, c'est de s'appuyer sur les connaissances utilisées dans les pratiques pour concevoir des curricula qui seraient mieux adaptés donc au contexte du Burkina Faso. Donc ils ont mené une recherche de type ethnographique. Ils se sont entretenus avec les vendeurs, les acheteurs sur les marchés, et ils ont pu mettre en évidence un certain nombre de résultats. Donc dans une pratique donnée, les acteurs mobilisent toutes sortes de ressources qui vont structurer en retour leur pratique. Je prends l'exemple de la mangue trouée, par exemple, qui va permettre d'identifier une certaine quantité de mangue. Un second résultat, le système oral de désignation des nombres qui est sous-jacent au comptage de la monnaie et qui n'est pas du tout lié à notre système décimal, qui peut paraître, quand on essaie de le comprendre, comme excessivement complexe puisqu'il repose sur des bases 20, des bases 60, enfin, il est très complexe. ce système de représentation très complexe donc balise des procédures expertes. Et ce système de représentation orale agit vraiment comme une ressource structurante dans le comptage de la monnaie. Donc, les auteurs de ce travail jugent que la flexibilité des acteurs pour passer d'une désignation à l'autre peut traduire une capacité qui peut jouer un rôle central dans l'apprentissage des mathématiques et légitimer une éducation mathématique endogène. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'analogie pour une éducation endogène ? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour les auteurs, il y a un point fort, c'est qu'il faut prendre en compte, prendre en compte les logiques sous-jacentes aux pratiques mathématiques qui sont présentes dans les activités culturellement situées constitue un moyen de résoudre les difficultés d'un enseignement mathématique formel dans des pays qui ont été anciennement colonisés. Donc il y aurait un appui possible sur ces logiques formelles, sans parler précisément de transfert par analogie, mais un appui. Alors il y a de nombreux exemples, j'en citerai quelques-uns. Bon, Guerdès, dont j'ai beaucoup parlé en fait, était aussi formateur, il a pas mal publié sur des expériences qu'il avait menées. Je parlerai aussi du Mali rapidement, en fait, parce que au Mali, dans les années 2000, la prise en compte des difficultés rencontrées dans l'éducation mathématique, mais au niveau un peu plus élémentaire, a conduit donc les ministres à modifier donc les curricula et les programmes en s'appuyant sur ce qu'ils appelaient la pédagogie convergente. Ça a été relativement révolutionnaire, bon, c'était en 2000, et évidemment depuis il y a eu des événements, mais c'est vrai qu'ils avaient vraiment de tout en tout bouleversé donc les programmes. Et ça en s'appuyant sur une méthode pédagogique qui a été tout à fait discutée, parce qu'en fait cette méthode pédagogique, qui s'appelle la pédagogie convergente, elle a pour objectif le développement d'un bilinguisme fonctionnel dans des situations contextualisées, et elle est appliquée aux mathématiques, mais aussi à l'apprentissage de la langue française. C'est-à-dire, en fait, c'est une méthode un peu fourre-tout, enfin, pas fourre-tout, mais qui, est, normalement, par isomorphisme, permettrait d'apprendre toute structure de langage. On s'appuie sur le langage local, dans des contextes locaux, pour pouvoir en tirer, finalement, les structures cognitives qui vont penser, qui vont être censées être isomorphes pour apprendre le français ou pour apprendre les mathématiques. Bon, le contexte n'a pas fait que les recherches ont été beaucoup plus approfondies, mais du moins à l'époque, en 2000, ça posait quand même un certain nombre de questions, notamment auprès des didacticiens français. Alors, je parlerai rapidement des travaux de Bishop. Bon, ça a eu un rayonnement sensible, notamment en Papouasie. Bishop s'appuie sur les 6 types d'activités qui sont universellement connues. Hein. Compter, repérer, mesurer, désigner, jouer, expliquer. Et comme ces activités sont celles qui expliquent le développement des mathématiques occidentales, il en déduit que, comme elles sont universelles, elles permettraient aussi de développer des mathématiques endogènes. Donc pour lui, dans les pays donc, qui ont été colonisés, il faudrait pouvoir articuler ce qu'il appelle une certaine enculturation, c'est-à-dire en fait un certain appui sur des éléments culturels propres aux sociétés, avec une acculturation qui cette fois serait une culture exogène, qui est celle que finalement propose l'Occident. Alors l'ensemble de ces travaux ont interpellé les didacticiens français. Je parlais de M. Chevalard, qui a notamment réagi dans une revue Educational Studies in Mathematics, dans un article sur les liens entre éducation, mathématiques et culture. Alors, ce que j'aborde maintenant est tout à fait personnel. Bon, ce sont des points de vue qui peuvent être remis en question. Donc, c'est une lecture personnelle que je vous présenterai. De même, Brousseau, en fait, a eu l'occasion d'aller faire des conférences à Sao Paulo, invité par D'Ambrosio. Hein, voilà. Donc, il y a des points d'achoppement, enfin, il y a des points qui sont communs. Si on prend la TAD, hein, c'est-à-dire la théorie anthropologique du didactique, hein, en France, donc on aura deux, enfin, je parlerai plus particulièrement de deux théories particulières. La théorie anthropologique du didactique, donc qui situe l'activité mathématique et donc l'activité d'étude dans l'ensemble des activités humaines et des institutions sociales. C'est un point, c'est ce qui est un peu caractérisé la TAD. Rousseau, lui, par contre, je ne caractériserai pas la théorie des situations, mais il écrit dans une conférence justement à Sao Paulo que finalement la didactique, qui est l'étude des projets sociaux, de faire approprier par des élèves un savoir constitué, peut devenir étude des conditions de diffusion des connaissances mathématiques utiles aux hommes et à leur société. C'est-à-dire, en fait, il y a des points communs évidents. Les champs d'étude n'apparaissent pas sans lien. Toutefois, il faut quand même s'interroger sur la notion d'activité mathématique et d'institution sociale dans le cadre de la théorie anthropologique, et de connaissances mathématiques et de projets sociaux dans le cadre de la TSD. Que présuppose une activité mathématique? Quelles conditions, en fait, doit satisfaire un savoir pour pouvoir être diffusé? C'est un peu les questions qui se posent, donc je vais abréger parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, à la lecture donc, de l'article de Chevalard, on pouvait quand même penser que la TAD remet en question ces positions qui sont quand même assez. Donc, en fait, on peut penser que les travaux de Gardès et Bishop peuvent être remis en question parce qu'en fait, ils témoignent du fait qu'on n'a pas pris en compte les métissages culturels qui ont permis l'émergence d'un corpus mathématique constitué. Et surtout la nécessité d'un travail de transposition et de didactification. Donc ça, c'est un premier manque signifie une chose, c'est que construire des organisations mathématiques enseignables, déjà, ça nécessite l'existence d'un texte de savoir, mis en mots, compréhensible, par le biais d'un langage qui implique du recul. Et en fait, dans les travaux ethnomathématiques, on remarque que finalement, les références au langage sont importantes, mais que ça reste l'un des points de discussion de tout ce qui concerne la didactique. Donc il en résulte que d'un point de vue mathématique, on ne peut pas concevoir que des élèves puissent réinventer des concepts à partir de pratiques ou de productions culturelles sans qu'il y ait eu transposition. Il n'y a pas d'analogie miracle qui permettrait de transposer des gestes en des concepts mathématiques. Alors, Jacques en a parlé, en TSD, effectivement, le recours à l'analogie est clairement identifié. Je pense que dans la théorie anthropologique didactique, on a aussi recours à l'analogie, notamment quand on parle des notions proto-mathématiques, c'est-à-dire de notions en fait qui ne sont pas enseignées en termes d'objets de savoir, mais de notions qui se forgent dans la pratique, hein, comme la capacité à identifier dans des expressions algébriques des ressemblances qui vont permettre de les utiliser comme outils. Voilà, donc je passerai, parce que je vais être dans... Je vais un peu dépasser. Donc voilà, et je finirai par le fait que le langage, en fait, que tous ces travaux soulignent le rôle du langage, soulignent la difficulté à user d'un langage qui soit en fait cohérent. Et je reviendrai à un humaniste que j'apprécie beaucoup. Je pense que Condorcet avait quand même mis finalement le doigt sur ce qui est fondamental aussi en didactique, le recours à un langage qui soit accessible à tous. Et il le disait ainsi, hein, dans une langue et dans une science bien faite, l'analogie des mots doit toujours être marquée par l'analogie des idées, Et je pense qu'en fait, ce genre de choses est vrai en didactique et en ethnomathématique, et que ça a été souligné ce matin aussi quand on a parlé des possibilités d'analogie. Voilà. Donc j'avais prévu un peu trop, je vous remercie. J'ai fini.